journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
À toutes et à tous, bienvenue dans le journal des auditeurs, bienvenue dans l'émission où vous avez la parole pour intervenir en direct. Composez dès maintenant le 01 55 07 58 00 depuis la France et n'oubliez pas l'indicatif 003 si vous appelez depuis partout ailleurs dans le monde. Vous pouvez également bien sûr nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux et notamment notre page Facebook, facebook.com/journal des auditeurs. Aujourd'hui dans le JDA, comme chaque vendredi, c'est la libre antenne, c'est vous qui faites le sommaire, c'est vous qui choisissez les sujets sur lesquels vous souhaitez vous exprimer. Un coup d'œil du côté du standard, je vois que nous parlerons un peu de cette polémique autour de cette place de l'Europe inaugurée il y a quelques jours à l'île de Gorée, au Sénégal. Nous parlerons aussi un peu du Tchad avec Sheikh et nous parlerons aussi un peu de la RD Congo, normalement avec notre grand témoin Nazaire Kongolo, qui est candidat à l'élection présidentielle de ce pays. Je rappelle le numéro pour participer, 00 33 1 55 07 58 00. Avant de prendre vos commentaires en direct, direction le répondeur d'Africa numéro 1 pour écouter vos messages.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Bonsoir Africa numéro 1, moi je m'appelle Didier. Je réponds au monsieur de tout à l'heure qui a dit que c'est le Proc Bagbo qui demande à prendre les armes pour dégager Alassane Dramane Ouattara de son pouvoir. Mais je dis à ce monsieur-là, s'il avait écouté M. Dramane sur 54, où il a déclaré que les gens qui s'expriment au nom des Ivoiriens en France ne sont pas des Ivoiriens, c'est des gens qui ont transité par Côte d'Ivoire et qui sont venus à l'étranger et qui parlent au nom des Ivoiriens. Je crois que ça doit être son cas. Si le président Laurent Gbagbo avait la culture de faire la guerre, de prendre les armes pour arriver au pouvoir, des poubettes, il serait déjà au pouvoir. Pourquoi je dis ça? Le président Laurent Gbagbo, quand il est en exil, il se battait pour la liberté d'expression, liberté de s'exprimer. Oui, il a fait la prison pour ça. Et aujourd'hui, il est encore en prison pour la liberté des Ivoiriens et de l'Afrique. Merci.
Bonjour, JDA, amis du JDA. C'est le frère Babano. Je voudrais dénoncer le scandale, la honte que Macky Sall fait au monde noir. Parce qu'il vient de... qu'il vient d'inaugurer une place sur l'île de Gorée appelée Place Europe. On sait bien que la traite négrière, l'île de Gorée est le symbole du génocide, du plus grand génocide de l'humanité. Alors, imaginez en Israël une place baptisée Hitler. Et c'est la même chose que Macky Sall vient d'autoriser sur l'île de Gorée, l'île appelée, une place appelée Place d'Europe. Imaginez ça. Ça, c'est pour cracher sur la mémoire de nos ancêtres, victimes de cette barbarie. Je le dénonce fortement. Et vraiment, c'est une honte pour le peuple sénégalais et toute l'Afrique. Vraiment. Merci, je suis désolé. Voilà. Bonne journée.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci à tous pour vos messages. Je dois me faire le relais d'autres messages. Madame Claude Mangin est en grève de la faim depuis 4 jours maintenant, depuis le 8 avril dernier, pour demander un droit de visite qu'elle n'a pas depuis 4 ans à Nama Asfari. Nama Asfari est un prisonnier d'opinion au Maroc, un résistant à l'occupation du Sahara occidental. Claude Mangin, sa femme, ne peut pas le voir depuis 2016. Elle a été foulée 4 fois du Maroc depuis cette date. Voilà, je vais me faire l'écho de sa grève de la faim surtout, mais aussi vous dire qu'un concert de soutien aura lieu ce samedi 12 mai à la mairie d'Ivry à partir de 19h30. Si vous souhaitez réagir à cette actualité, vous le pouvez, car aujourd'hui, bien sûr, dans le JDA, c'est la libre antenne. Vous êtes déjà nombreux du côté du standard. Et exceptionnellement, nous avons un témoin avec nous en plateau, Nazaire Kongolo, bonjour.
Bonjour.
Alors, n'hésitez pas à parler bien près du micro, à vous rapprocher. On va peut-être vous le déplacer un petit peu pour qu'on puisse vous entendre. Vous êtes un homme d'affaires et vous êtes surtout, c'est ça, candidat à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo.
Tout à fait. Oui, je suis candidat.
Je vous dirai dans quelques instants qu'est-ce qui a motivé justement votre candidature. Qu'est-ce que vaut cet engagement. Avant cela, chose promise, aujourd'hui on va retrouver un auditeur, vous savez c'est le journal des auditeurs, c'est eux qui ont la parole dans cette émission. On va retrouver un auditeur du côté de Djamena Archiduc, bonjour.
Ouais, bonjour la radio africaine numéro 1 et bonjour à tout le monde.
Bonjour Archiduc, merci d'être là. Je m'excuse, la dernière fois vous étiez inscrit hein, pour parler de l'Iran et de la décision des États-Unis de se créer. Et comme on a tard de vous prendre, hein, vous aviez sûrement d'autres choses à faire. Aujourd'hui, je crois que vous vouliez nous parler du Tchad, c'est bien ça?
Effectivement, je voulais parler du Tchad, bien sûr.
Ah. Alors le problème, c'est que les lignes téléphoniques du côté de N'Djamena ne sont pas toujours excellentes. Archéduc une fois, archéduc deux fois, archéduc trois fois. Bon.
Oui, je vous écoute. Oui, je vous en parle bien.
Ouh, alléluia, on a chaud, hein. Vas-y, on vous écoute sur le Tchad. Que se passe-t-il du côté de N'Djamena?
Ouais, ça fait deux jours, la ministre de l'aviation civile, à personne de Diberdi Amandizou, devrait prêter serment sur la base de la 4e République, c'est-à-dire le Tchad vit actuellement un mois de 4e République, où avant d'accéder à un conseil ministériel, la candidate doit prêter serment. Alors que dans la Bible, il est dit quelque part qu'on ne peut pas prononcer le nom de Dieu n'importe comment. C'est ce que cette grande dame, Pierre Grosine, avait fait face au président de la République pour le faire comprendre que lorsqu'on fait un serment, ce n'est pas seulement pour amuser le public, ce n'est pas pour tromper la vigilance des gens, mais on prête vraiment pour mettre ce serment en place. C'est vraiment difficile. Avec ce moment dont j'ai le cas, donc pour moi, c'est une très bonne chose. Lorsque on est à mesure de prêter et de respecter ce serment, pour moi, c'est bien de ne pas prêter ce serment et refuser, puisque dire quelque chose et ne pas respecter cette chose-là, ne pas pouvoir mettre en pratique cette chose-là, c'est une action de foi. Et cette grande dame, Diderdi Rosine Younous,
Donc, si on comprend bien, Archéduc, Rosine Djibergui, ministre de l'aviation civile, du transport et de la météorologie au Tchad, a refusé de prêter serment sur la Bible par respect pour sa foi, c'est ça?
Effectivement, parce que ça fait quelque chose de dangereux. Donc, prêter serment, c'est devant les hommes et devant Dieu, et Dieu prend acte. Alors, si ça dit de prêter serment, sans la sincérité, pour moi, il ne sert à rien de prêter serment.
C'est très clair. Merci Archéduc de nous avoir parlé de cette actualité au Tchad. Je vous demande une réaction, Nazer Congolo. On jure, on prête serment sur la Bible?
Pour les présidents de la République, oui, ils prêtent serment, mais bon, un ministre, ça, ça n'existe pas.
Vous le feriez si vous alliez, vous ne prêteriez pas de prêter serment sur la Bible?
Non, de toute façon, je suis déjà chrétien moi-même, catholique de surcroît, donc pour moi, ce n'est pas vraiment un problème, mais je comprends que lorsqu'on est catholique, lorsqu'on est musulman, par exemple, je comprends qu'on prête serment au Coran, par exemple. Donc, tout dépend de la foi qu'on a.
C'est vrai que c'est peut-être intéressant pour un pays comme le Tchad, hein,
où
alors, les musulmans sont plutôt majoritaires, hein, même s'il y a beaucoup de chrétiens aussi au Tchad, de jurer la Bible. On voit ça aussi dans d'autres pays, bien sûr. On va dans quelques instants, je demande mais aux auditeurs Marcus, Ladji, Marc, Aiko, de planter quelques minutes. On va quand même s'intéresser à votre candidature. On peut le dire, hein, vous êtes nouveau en politique, Nazer Congolo?
Oui, effectivement, je suis nouveau, mais disons que j'ai été sollicité à plusieurs reprises depuis les premières élections, mais ça ne m'intéressait pas. J'étais plutôt préoccupé par ce que je faisais à l'époque. Et voilà, et maintenant...
Vous êtes dans l'immobilier, je crois.
Oui, voilà, justement, à Bruxelles depuis plus d'une dizaine d'années.
D'accord.
Ouais.
Vous n'avez pas de parti politique?
Du tout.
Où c'était prévu?
Non, c'est pas prévu. Disons que je compte voler par mes propres ailes, ne dépendre de personne, si ce n'est que du peuple. Et donc voilà, tout ce que je ferai, c'est en communion avec le peuple. Et c'est le peuple qui décidera ce qu'on devra faire au moment opportun.
Qu'est-ce qui a motivé votre candidature dans un contexte, il faut le dire, hein, de crise politique et humanitaire aussi, en République démocratique du Congo?
Les appels que j'ai. Disons que j'ai plusieurs activités. Au Congo, hein, j'ai des activités, des choses que je fais, probablement sans faire beaucoup de bruit, mais tous les gens avec lesquels je travaille, notamment les femmes abusées à l'Est, les démunis que j'assiste dans la mesure du possible, sans faire de bruit bien évidemment, m'ont persuadé, m'ont convaincu de pouvoir tenter ma chance.
Comment vous faites des actions sociales à Kinshasa ou dans l'ensemble du Congo, à l'Est?
Essentiel Kinshasa. Quand
d'accord.
Même.
Et donc, voilà. Une association on peut donner le nom.
Bana Eugénie Monique.
Bana Eugénie Monique. Ouais. C'est inspiré du nom
de défunte maman. Non, voilà.
D'accord. Ouais. Et c'est le but de cette association ?
C'est assister les personnes démunies, d'accord, essentiellement les femmes. Hein, d'où
c'est quoi,
le
vous,
nom.
Vous venez en aide en leur proposant une activité
En leur proposant des activités. Et là, on envisage à donner du, faire suivre une formation à 1000 mamans, 1000 femmes désœuvrées. Une formation rémunérée étalée sur 6-7 mois et au-delà, pouvoir les insérer dans la vie active à Kinshasa essentiellement.
Bon, c'est clair, merci beaucoup pour cette présentation. On va revenir un peu plus loin sur la situation en RDC puisque dans quelques instants, on va prendre Aïko Mopilich. Demain, Marcus Ladji et Marc Dessianté. Après, on va s'intéresser à cette place de l'Europe à Gorée qui fait bondir sur les réseaux sociaux. On écoute Aïko, bonjour.
Bonjour Madame Hartmann.
Bonjour Aïko.
Ouais, bonjour madame.
Bonjour.
Vous allez bien madame?
Ça va et vous?
Ouais, ça va bien madame. Martin, nous sommes dans l'ingé, les frais et la seule radio que nous écoutons tous les jours.
Eh ben, merci de votre fidélité, Aïko, et merci à tous de votre écoute.
Oui. Ouais, moi je voulais parler d'une année de Macron à l'Élysée pour la politique africaine, mais sa politique africaine ne sache pas, parce que tout ce qui se passe à la République démocratique du Congo, mais c'est Macron fermé les yeux, il a fermé aussi les oreilles. Ils disent rien, ils parlent pas, ils bougent pas, mais comme son prédécesseur, François Hollande, il avait quand même quelque chose de Congo. Mais quand vraiment, avec la politique africaine, ça marche pas. Au Congo, au Togo, au Tchad, partout, vraiment là où il y a des gens de la dictature qui nous trans. Mais c'est Macron, on ne parle pas. Parce qu'il a créé, je crois, une association qui s'appelle CPA, G7 et CPA.
Le Conseil présidentiel pour l'Afrique, c'est une espèce de think tank.
Qui est dirigé par un Burkinabé. Mais ça marche pas.
Non, c'est un Béninois, Jules Armand Nyambosu.
Ah, Béninois, excuse-moi, j'ai oublié. Mais ça marche pas. Mais quand on voit ça, c'est la France-Afrique qui dit.
Est-ce que vous. Alors, Aïko Mopongi, qu'est-ce que vous auriez-vous attendu. C'est le LRD Congo qui vous tient à cœur. Entre. Pour la RD, qu'est-ce que vous auriez attendu de la diplomatie française et de l'Elysée en particulier?
Mais ce que vous entendez de l'Elysée, il fallait faire quelque chose. Parce que quand.
Oui, mais quoi, Aïko, je vous demande, quel geste, quelle parole vous auriez voulu?
Quelle parole, quelle nous voulons passer? La constitution demande à Kabila de plus les présenter à la magistrature suprême. Mais c'est Kabila ne dit rien, et Nance ne dit rien, parce que quand les gens ont déclaré tous ceux qui passent au Congo, ceux qui passent au Congo, par exemple les massacres du Congolais de 21, toutes les missions là, les ONG, ils ont dit, ça vient de la France. C'est pour cela que la France ne dit rien. C'est pour cela que nous, les peuples congolais, nous disons, il faut que Macron dise quelque chose. Non. Parce que si la France ne parle pas, Kabila reste au pouvoir, même pendant 5 ans, mais la France ne dit rien. Parce que ce que nous avons avec la France, ils ont signé un contrat, mais c'est Kabila pour les peuples. Qui est à l'acte Tanganyika, à l'acte Mobutu.
J'ai des consignes, effectivement, qui ont été renouvelées pour l'entreprise totale.
Mais c'est ça, total. Mais c'est ça, à cause de ça. Macron ne parle pas, Macron ne dit rien. Bon. Mais nous ne voulons plus de M. Kabila, parce que son mandat est fini. C'est pour cela que nous disons à France de dire quelque chose. Nous demandons à l'association CPA de dire quelque chose à M. Macron. Kabila n'est plus présent, ça fait 2 ans, mais il est toujours au pouvoir. France ne dit rien.
C'est très clair.
Nous demandons à la France de dire quelque chose de Macron, de pousser et Kabila a quitté le pouvoir et laissé le peuple français, le peuple pas congolais.
Vous avez fait un lapsus intéressant à Aïko Mopongi hein, qui demande finalement à la France de pousser, demander le départ de Joseph Kabila. Monsieur Kongolo, vous êtes candidat, candidat à cette élection présidentielle en RDC. Deux petites questions suite à la réaction d'Aïko Mopongi. Tout d'abord sur votre regard sur la politique d'Emmanuel Macron envers le continent africain. Ils sont nombreux, les auditeurs, ici et ailleurs à demander à ce que la France soit davantage exigeante en matière de droits de l'homme, en tout cas qu'elle donne des leçons à certains pays africains. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes favorable à une ingérence comme ça de la France ou...
Non, du tout. Moi, j'ai une conception tout à fait différente. Et de mon point de vue à moi, je trouve que on ne peut pas accepter, on ne peut pas souhaiter, on ne peut pas inviter des étrangers à venir se mêler de ce qui se passe au Congo. Je trouve que le Congolais doit se prendre en charge lui-même, devons nous-mêmes lutter contre cela. Utiliser toutes les voies et moyens pacifiques et ceux qui ne sont pas contents de Kabila, ils l'expriment sans pour autant faire appel à des étrangers, parce que les étrangers qui viendraient prêter main forte, Ils ne le font pas gratuitement, vous êtes bien d'accord avec moi. Ils attendront toujours quelque chose en retour et à un moment donné, on dit qu'on est indépendant, alors on doit le rester du début à la fin. Donc moi, je suis pas pour, je suis contre les ingérences.
Alors justement, hein, l'ONU pointe l'absence d'un plan de financement clair du processus électoral par Kinshasa. L'élection présidentielle doit se tenir le 23 décembre 2018. Elle aurait dû avoir lieu un an auparavant, selon un accord. Hein, bref. Alors, pensez-vous, ma question est celle-ci, excusez-moi, pensez-vous que les autorités ont la volonté d'organiser ces élections?
Moi, je pense... C'est pas que je suis partisan, ils sont au pouvoir pour le moment. Quand je lis l'actualité telle qu'elle est, pour le moment, j'ai comme l'impression que les élections auront bel et bien lieu. Je souhaite que les élections aient lieu. Et je souhaite qu'elles se fassent dans les termes, dans les temps qui ont été, qui sont indiqués jusque-là, c'est-à-dire le 23 décembre. Donc voilà, moi je suis contre ceux qui disent, il faut une transition sans Kabila, parce que transition veut dire deux, trois ans encore pour des élections soi-disant crédibles, alors que je sais très bien, on sait tous très bien que les élections parfaites, ça n'existe nulle part. Il y a toujours quelque chose qui n'a pas été. Et donc voilà, moi je suis pour des élections. S'il pouvait avoir aujourd'hui, je serais content.
Des élections parfaites n'existent pas, mais une compétition équitable est toujours exigée, notamment en démocratie. Est-ce que vous pensez que la compétition sera équitable? Est-ce que vous avez la certitude que Joseph Kabila ne se représentera pas?
Jusque-là, il a rien dit. Et moi, je suis un petit peu comme Saint Thomas, donc je ne crois que ce que je vois, je ne crois que ce que j'entends. Donc voilà.
Donc vous n'avez aucune certitude qu'il ne soit pas candidat?
En tout cas, il a dit, donc je ne pense pas qu'il le sera quand même. Il dit, il n'a pas été de répéter qu'il respectera la Constitution. Et s'il respecte la Constitution, c'est que, il n'a pas le droit à un nouveau mandat, mais bon.
On va voir. Je demande à Mata de patienter un petit peu parce que Mata va nous parler aussi de Kinshasa et d'arrestation des étudiants. Avant ça, on va évoquer la polémique qui secoue les réseaux sociaux depuis quelques temps. C'est l'inauguration d'une place de l'Europe à Gorée, place de l'Europe financée par l'Union européenne. Alors, on va commencer par Ladji. Ladji, bonjour. Ensuite, on écoutera Marc et Marcus.
Bonjour, Ladji. Madame Akuma.
Bonjour. Bienvenue dans le JDL, Ladji.
Oui, bonjour, merci. D'abord, je m'excuse peut-être parce que le français est un peu difficile pour moi. Je ne sais pas si les gens peuvent mieux comprendre.
On comprend, c'est bon.
Mais, voilà. Moi, je voulais juste poser une seule question à Macky Sall parce que j'arrive pas à comprendre que dans la tête de Macky Sall, qu'il pense que c'est l'histoire de l'Europe qui va développer l'Afrique. Parce qu'il est en train de... Moi, de côté, il est en train de... enfoncer l'Africain comme le font. Et moi, je pense que ça, c'est inadmissible. Il a laissé toutes ces grandes personnes qui ont vécu au Sénégal, qui ont vécu précisément à Gorée.
Ah, Ladji, ça a coupé. On a pas très bien compris, mais si on a bien compris ce que disait Ladji, finalement, qui voulait poser une question au président sénégalais, en disant est-ce qu'il vraiment il pense que l'Europe qui va développer le continent africain. Marc, bonjour.
Oui, bonjour.
Voilà, Marc, vous aussi, vous voulez parler de cette place de l'Europe à Gorée. Apparemment, c'est déjà depuis 2016 qu'elle s'appelle la place de l'Europe, mais elle a été officiellement inaugurée il y a quelques jours par Augustin Senghor, maire de la ville de Gorée.
C'est une chose que je ne comprends pas. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Moi, je suis du Gabon, mais dans toute l'Afrique, on va dire française, de donner des places, des noms d'impérialistes français, je n'arrive pas à comprendre quelque chose. Soit on n'a pas d'historien, on n'a pas d'histoire. Je ne comprends pas. Donc, je ne comprends pas leurs faits. Ces personnes, ils n'ont pas de conseiller. Vraiment, c'est triste. Quoi. En plus, de surcroît, sur une île qu'on appelle Gorée, qui porte cette histoire. De la traite, mais comment faire, comment il n'a pas de conseiller, je n'arrive pas à comprendre ces gens-là. On a de personnes qui ont lutté pour l'Afrique, les immortaliser sur des boulevards. Franchement, au Sénégal, là, je comprends pas. Enfin, pas les seuls, même chez nous au Gabon, on a des boulevards de Gaulle et tout, mais je comprends pas. C'est une chose qu'il faudrait qu'on bannisse. Elle est assez grande, elle a son histoire et il faut qu'ils aillent plutôt dans ce sens-là. Un minimum de
déconnexion, finalement, peut-être, élites avec les opinions aussi.
Franchement, c'est grave. C'est grave. Donc, c'est mon coup de gueule. quand j'ai entendu ça, c'est franchement, il faut qu'ils arrêtent en 2018. Je pense qu'on a assez d'historiens, assez de grandes personnes qui ont lutté pour la libération de l'Afrique. Quoi.
Mm-hmm. Merci.
Voilà, c'était mon coup de gueule.
Bah, merci Marc d'avoir apporté votre coup de gueule. Vous n'êtes pas le seul, hein. Vous êtes nombreux. Je pourrais réagir dans quelques instants, Nazaire Congolo, à cette actualité. Mais on va finir avec Marcus. Bonjour.
Bonjour Madame Hartmann, bonjour les auditeurs de Parlement et bonjour l'Afrique.
Marcus, votre homonyme, hein, Marcus Garvey doit se retourner dans sa tombe.
Ah, d'autant plus vous évoquez Marcus Garvey, c'est vrai défenseur du panafricanisme dont je pense que je suis son disciple parce que on peut comprendre de quoi souffrent les dirigeants africains. Mais je vais poser cette question, c'est-à-dire l'histoire, elle est ce qu'elle est, mais on est oublié. Mais comment admettre qu'aujourd'hui, même si l'Union européenne apporte des fonds, peut-être pour améliorer la condition de cette personne vivant à l'Idokori, parce que je vis tout le temps l'Idokori dès que j'étais à Dakar. Cela, c'est mon pèlerinage et je suis toujours inspiré à me ressourcer du passé de mes aïeux. Mais il y a des choses qu'on peut faire effacer en apportant le nom d'une place à l'Idokori pour apporter le nom des Européens, de l'Europe, contributeurs de la traite négrière. À vous de ça, madame. J'ai visité le Sénégal la première fois, c'était en 2003. Il y avait un symbole qui était un coup qui était sur un tambour de cadre de gros cas, de tambour, qui était juste sur le débarcadeur. Mais madame, il y a quelque chose qui a nécessité la conscience des gens, c'est ce symbole qui était le symbole de liberté, et que tout descendant africain, quand il débarquait sur le débarcadeur, tournait nez à nez avec ce symbole de liberté. C'était encore réjouissant de dire que je reviens là où est parti l'ailleurs et je retrouve encore cette liberté qui me permet de venir visiter le lieu. Je vais vous dire, madame.
Pour conclure, Marcus.
Madame, c'est pour que comment on détruit une conscience. Même ce symbole de liberté, on a mis dans le sanctuaire même, là où il y avait des esclaves. Donc il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Mais on n'avait pas tué la mémoire de l'homme en comme on dit, en occultant le symbole de liberté. On a fêté la commémoration de l'abolition de l'esclavage, tête des Européens. Mais je ne comprends pas pourquoi célébrer la commémoration de l'esclavage, alors qu'en 1791, il y avait un vent de ce qui était le symbole de liberté qui avait arraché les esclaves.
En effet, c'était après la Révolution française et l'esclavage a été rétabli par la suite contre l'avis de Robespierre d'ailleurs. Merci Marcus, on a bien compris, mais le temps passe vite de l'émission. Marcus qui évoquait la puissance des symboles et l'impact sur les consciences. Nazaire Congolo, que pensez-vous de cette actualité au Sénégal, le fait qu'on ait attribué le nom, la place de l'Europe sur l'île de Gorée, symbole de la traite négrière?
Oui, bah, je comprends que certaines personnes soient choquées. Je ne sais pas ce qui a poussé les autorités sénégalaises à rebaptiser la place. J'aime pas me mêler de ce qui ne nous concerne pas. Je pense que le Sénégal a une histoire et qu'il est dirigé comme par des dirigeants qui ont été élus. Et je ne pense pas qu'il fasse certaines choses qui posent certains actes sans pour autant suivre une certaine ligne pour laquelle ils ont été votés. Donc, c'est un problème sénégalo-sénégalais et c'est à eux de voir avec leurs dirigeants.
Alors, on va en faire un problème congolais, puisque l'un des auditeurs tout à l'heure évoque le nom des rues. Ici, là, on a effectivement des boulevards de Gaulle. Moi, je ne connais pas bien Kinshasa, mais Kinshasa, vous avez l'avenue du roi Baudouin. Ouais. Est-ce que vous êtes favorable à débattre cette avenue?
À titre personnel, ça ne me dérange pas dans la mesure où...
Ou est-ce que vous comprenez le symbole négatif que peut porter le nom d'une avenue en RDC, du nom de l'ancien colonisateur, d'autant que la colonisation en RDC était violente.
Oui, ça fait quand même partie de notre histoire. Hein. Donc, quand vous allez à Bruxelles, par exemple, il y a la rue ou l'avenue du Katanga, il y a
la place Lumumba maintenant.
Donc voilà, donc... Il est vrai que nous avons, il ne faut pas oublier que la Belgique a été une colonie, enfin le Congo a été une colonie belge, et que bon, qu'on le veuille ou pas, la Belgique fait partie de l'histoire du Congo.
On ne peut pas effacer les traces du passé.
Je ne pense pas que ça serve à quelque chose, à titre personnel, mais je comprends que certaines personnes soient choquées, donc voilà.
Merci Nazaire. Congolo. Alors, je demande à Mata d'attendre encore un tout petit peu à Kim Alassane. Il y a Andy qui patiente depuis un bout de temps, je n'avais pas vu Andy. Andy, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Bonjour Andy, merci de votre patience. Je vous laisse vous rapprocher de votre téléphone, merci.
Oui, oui.
Alors vous vouliez parler de médias qui ne font pas la couverture des événements qui se passent en Afrique, ce n'est pas vrai, vous n'écoutez pas assez Africa numéro 1, Andy.
Si madame, j'écoute beaucoup Africa numéro 1, parce que j'ai vu la visite du Premier ministre J'ai pas eu beaucoup de couverture. Je vois seulement que des journalistes blancs, sans doute de France.
Vous parlez d'Ika en Côte d'Ivoire, que ça...
Non, Ménaka, c'est
pas... Ah, le Premier ministre à Ménaka, au Mali. Non, du Mali, d'accord, excusez-moi.
Voilà, j'ai regardé les télé sur Internet, mais j'ai pas vu cette information-là. Il y a rien du tout. Le problème, c'est ça. Quand il y a un drame qui se passe en Afrique, on ne peut pas parler. Il faut se tourner sur les médias européens pour pouvoir voir les coups. Donc, ça joue beaucoup. On n'a même pas d'informations bien traitées, même.
On n'a pas parlé, Andy ?
Non, non. Oui, c'est sûr que moi, j'ai vu. Je n'ai pas d'autres chaînes privées en dehors des OTM ou en dehors des chaînes de l'État. Voilà, c'est ça comme Africa numéro 1. Voilà, comment
on a parlé, BBC Afrique. On a parlé, sûrement.
Non, j'ai les papa largement. Ouais. Largement.
Ouais. On n'a pas assez parlé de cette. Et en quoi on aurait dû plus parler de Ménaka? On dit c'est symbole la venue du Premier ministre malien à Ménaka?
Oui.
D'accord. Oui. C'est très clair. Merci beaucoup. Andy, merci beaucoup. Une question rapide, Nazaire Ngolo, vous pensez que les médias, en l'occurrence les médias belges, on va dire, parlent suffisamment de l'actualité africaine? Comment ils en parlent?
Disons que les médias belges parlent quand même assez régulièrement de l'actualité, de ce qui se passe au Congo.
Oui.
Ça, c'est non. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème.
Vous êtes plutôt satisfait du trait d'information par les médias belges concernant la RDC?
Jusque-là, oui. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'impartialité. Du moment qu'on est impartial, qu'on reproduit ou qu'on rapporte les faits tels qu'ils se passent, pour moi, il n'y a pas de problème. C'est ce qui semble être le cas avec la presse belge.
Alors justement, écoutez Mata, mais je crois que c'est notre fidèle auditeur. Mata, bonjour.
Oui, bonjour madame Stéphane.
Bonjour monsieur Mata. Oui. Alors, vous intervenir par rapport aux arrestations des étudiants à Kinshasa.
Exactement madame.
Allez, faites-nous un rappel.
Tu sais madame Atman, dans mon pays, la RC, les étudiants sont en train de souffrir. Déjà, ils n'ont même pas de bourse. Alors, on manifestait, et maintenant, comme le gouvernement a été dictature à Kinshasa, ils ont arrêté 20 étudiants. Mais pourquoi ils ont arrêté les 20 étudiants? Ils ont le droit de manifester si ça ne va pas. Si ça ne va pas, donc ils ont le droit de manifester.
Vous dénoncez déjà, ces manifestations,
Oui, déjà, ils ne sont pas boursiers.
Le prix de transport en commun augmente, c'est ça aussi?
Oui, les transports, ça coûte cher. Les conditions des universités, ce n'est pas favorable. Ils n'ont même pas de toilettes. Et ils ont des frais à payer qui coûtent très cher. Au moment où il y a des élèves qui sont là, leurs parents ne sont pas même pas payés. Et c'est tout le ministre, leurs enfants font des études en Europe. Mesdames, attends, où va le pays? Où va le pays? Où va le faire?
C'est très clair. On va demander, Matt, parce que le temps passe vite. Merci, Matt, à votre appel, une petite réaction. Notre invité, Nazaire Congolo, aux arrestations d'étudiants à Kinshasa. Ça vous inquiète, la situation actuelle à Kinshasa? Parce qu'on peut parler donc de Kinshasa particulièrement, d'arrestations d'étudiants, les difficultés. On peut aussi parler de la situation au Kassai, plutôt dramatique. L'UNICEF a lancé un appel pour venir en aide à plus de 400 000 enfants menacés de mort, selon rapport. Quel regard portez-vous sur ces drames que vivent les Congolais?
Ça m'affecte énormément, surtout ce qui se passe au Kassai où les gens sont livrés à eux-mêmes. Et je demande au gouvernement, je demande à ceux qui nous dirigent de faire le nécessaire pour que l'ordre puisse être rétabli dans les meilleurs délais. Et je demande à tous ceux qui profitent de cette situation pour tirer sur ceux qui nous dirigent, je leur dis que ça ne profite à personne et qu'on a des pertes des vies humaines considérable.
Et des étudiants arrêtés alors qu'ils manifestent contre la vie chère, vous comprenez aussi ?
Non, ça je ne comprends pas. Ça, je trouve que les gens ont le droit de dire non quand ça ne va pas. Si effectivement, le coût de la vie est devenu... La vie, elle est devenue quand même insupportable à Kinshasa. Donc, les frais de transport, j'ai appris encore récemment, ont augmenté de façon assez significative. Et il y a lieu de faire quelque chose. Moi, je comprends que les gens se soulevaient et je suis contre le fait que les manifestations de ce type soient réprimées. Et
pourtant, c'est ce même pouvoir qui réprime ces manifestations. Pour le coup, il y aurait matière à critique.
Bah, disons que je ne défends pas le gouvernement. Hein. Moi, je ne suis pas là pour défendre le bilan du gouvernement actuel, mais quand quelque chose est fait de positif, ce n'est pas parce que c'est fait par le gouvernement ou par l'opposition qu'il faut dire que ce n'est pas bien ce qui est fait en place. C'est ce que moi je dis. Mais par contre, réprimander les soulèvements d'étudiants parce qu'ils sont contre ce qu'ils endurent pour le moment, ça je condamne également, je condamne vraiment.
Mais vous ne pensez pas que le gouvernement a une part de responsabilité dans la crise, puisqu'on pour revenir sur le Kassai, justement, dans cette crise humanitaire ?
Je n'ai pas envie de penser parce que je n'ai pas lu le dossier, je ne me prononce pas sur ce que je ne maîtrise pas par mesure de prise.
Vous l'avez dit, on arrive tôt. À la fin de cette émission, on a juste le temps d'écouter Hakim. Si Hakim, vous êtes bref, je peux vous prendre. Vous vouliez revenir rapidement sur la place de l'Europe à Gorée, Hakim, c'est ça?
Oui, bonjour ma sœur Stéphanie.
Vas-y Hakim, 30 secondes.
Oh là là là, franchement, c'est encore une honte pour l'homme noir. Et voilà là où... nous tous, nous avons connu, c'était le point de départ de nos aïeux. Et voilà encore nos dirigeants qui veulent changer l'histoire en changeant ce nom pour donner un autre nom. Mais honte aux Noirs, hein. Franchement, qui se croyait, qui se disait franchement un homme intellectuel. Mais combien de fois, ces gens, ils croient être les personnes les plus sages. Voilà, ce sont encore les disrupteurs. Pour moi, je pense que les dirigeants, ce sont que les marionnettes des Occidentaux. Donc l'homme noir, on ne peut que pleurer sur nous-mêmes.
Voilà, si vous l'avez dit, Kim. Merci beaucoup, Hakim, de votre participation. On arrive à la fin de cette émission. Nazer Kougolo, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. J'appelle à nos auditeurs qui ont fait votre connaissance, on peut dire aujourd'hui, que vous êtes candidat à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. C'est donc la fin de cette émission. On va rediffuser ce soir à 19h20, heure de Paris. Merci beaucoup de votre écoute et de votre participation. On se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle édition du Journal des Auditeurs. N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions, de vos coups de cœur, de vos coups de gueule en nous envoyant un mail. La boîte mail d'émission, c'est jda@africa1.com. Je lis personnellement tous vos messages et j'y réponds. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à liker nos réseaux sociaux @radio_africa1. En attendant de vous retrouver, prenez grand soin de vous et des autres aussi. C'est important. À l'écoute d'Africa numéro 1, la seule, l'unique radio africaine. À lundi.